Que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Nous allons faire quatre lectures, mais d'abord, nous allons commencer par celle-ci. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Deuxième texte. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 76. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 76e. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Une troisième lecture dans le prophète Ésaïe au chapitre 8 et au verset 23. Prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Regardez cette parole, c'est belle. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du territoire du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Que pensez-vous de ce dernier texte, hein? J'ai donné comme titre à ma prédication, vous allez peut-être être très étonnés, le témoignage de Noël. On entend tellement de sottises, d'âneries, de stupidités, ça en est devenu même du théâtre, et je pense qu'il faut dire certaines choses par rapport à Noël. Noël, ça vient de mot latin qui signifie natalis, jour de naissance. Alors, je vais d'abord, la quatrième lecture, c'est le dernier témoignage de la naissance de Jésus-Christ. Comment Dieu nous présente la venue de Jésus-Christ. Vous avez vu dans Matthieu, dans Luc, Dieu nous fait venir Jésus par Bethléem. Dans l'évangile de Jean, Dieu nous présente Jésus venant directement du ciel. Lisez avec moi, c'est important de comprendre ces choses. Vous avez remarqué que chaque évangile présente le ministère de Jésus d'une façon complémentaire, différente. Jean, chapitre 1er. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Il n'a pas besoin de passer par Bethléem. Il nous le fait venir directement du ciel. Jean, chapitre 1er, verset 6. Il y a des gens qui disent, oui, c'est pas normal, Matthieu l'a présenté d'une façon, Luc d'une autre, Jean d'une autre. Eh bien sûr, les gens ne comprennent pas que dans l'évangile de Jean, il n'y avait pas besoin de le faire passer par Bethléem parce qu'il est le Fils de Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, qu'avez-vous entendu ces dernières semaines sur Noël? Qu'avez-vous entendu sur Noël, sur le Thanksgiving aux États-Unis, sur la Hanouka, dernièrement, comment c'est présenté par les médias en France? Et moi, franchement, j'ai écouté certaines choses, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que les gens puissent en arriver à dire des âneries pareilles. Vous savez, nous vivons des temps difficiles, je ne vous apprends rien, nous vivons des temps compliqués, nous vivons des temps exceptionnels, nous vivons des temps alarmants. Des choses graves se passent sur la surface de la terre et nous voyons tout ce qui se passe, on voit une partie de ce qui se passe et nous les chrétiens, nous devons vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles de notre cœur et regarder comment les choses se passent. Que signifie Noël pour les chrétiens aujourd'hui? Quand j'entends certains enfants de chrétiens, je me demande ce que les parents enseignent à leurs enfants. Pour certains enfants de chrétiens, c'est le petit papa Noël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Certains enfants de chrétiens. Que signifie Noël? Que signifie Noël pour vous? Par exemple, alors je vais parler des témoins de Jéhovah une seconde. Vous allez comprendre pourquoi. Les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Noël. Pourquoi? Parce que Noël ne trouve pas sa place dans les fêtes du Lévitique. Vous savez que c'est bien. Ça se comprend, leur façon de penser. Alors ils disent que les chrétiens, nous sommes des païens. Je pense que cela c'est un peu exagéré. Les témoins de Jéhovah disent que nous sommes des païens parce que nous fêtons la fête de Noël, parce que la fête de Noël n'est pas dans les fêtes du Lévitique. Nous fêtons Pâques, oui. Est-ce que Pâques est dans les fêtes du Lévitique? Oui, naturellement. Pentecôte, est-ce que Pentecôte est dans les fêtes du Lévitique? Oui, et Pentecôte est devenue prophétique, etc. C'est très intéressant. Les pasteurs en formation m'ont demandé de leur faire une étude sur les fêtes du Lévitique. C'est très, très, très intéressant. La fête des pains sans levain, est-ce qu'elle est devenue prophétique? Oui, le jour où Jésus-Christ a donné sa vie. La fête des prémices, elle est devenue prophétique. La fête du pardon, elle deviendra prophétique. Nous pensons qu'elle représente le Yom Kippour, vous savez. C'est une fête du Lévitique qui deviendra prophétique. La fête des tabernacles, nous le savons, le retour de Jésus-Christ sur la terre est quelque chose de prophétique. Mais Noël ne trouve pas sa place dans les fêtes du Lévitique. Alors, c'est pour ça que certaines sectes, il faut dire les choses comme elles sont, faut être droit, certaines sectes disent que nous sommes de véritables païens. Alors, qu'est-ce que Noël? Comment devons-nous fêter Noël? Qu'est-ce que la Bible indique sur Noël? Eh bien, l'Écriture s'explique toute seule, toute seule. Nous avons un texte, et j'aimerais que vous le lisiez avec moi dans l'Évangile de Jean, où Jésus a célébré ce que l'on appelle la fête de la dédicace. Vous avez certainement lu, peut-être vous n'y avez pas fait attention, mais dans Jean au chapitre 10 et au verset 22, il nous est parlé d'une fête. Je ne sais pas si vous avez cherché dans le dictionnaire ce à quoi correspondait cette fête. Vous savez, aujourd'hui avec Internet, moi je n'ai pas tapé sur Internet la fête de la dédicace, et je peux vous dire que vous avez tout. C'est extraordinaire aujourd'hui, tout ce qu'on peut avoir gratuitement comme information. Jean chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Donc Jésus a participé à la fête de la dédicace. La dédicace, c'est un mot grec qui signifie la Hanouka, l'inauguration. Vous connaissez la fameuse fête juive, on en parle, les médias en parlent. Et est-ce que les médias en parlent de la fête de la Hanouka? Oui, beaucoup de gens entendent parler de la Hanouka. Mais là aussi, j'ai tellement entendu de choses contraires à l'Évangile que je me suis dit, il faut quand même l'expliquer. Le jour de la dédicace, si vous avez lu l'Évangile de Jean, Jean 8, 9, 10, etc., vous voyez quelque chose de particulier, c'est que pendant cette fête, donc la fête de la dédicace, Jésus a dit au monde entier, je suis la lumière du monde. Et il faut comprendre que pour les Juifs, c'est une fête très 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 importante, la Hanouka, la fête de la lumière. Vous connaissez, c'est la fête de la lumière. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors pour vous les chrétiens, tout ça c'est naturel. Est-ce que c'est naturel pour nous les chrétiens? Oui, je vous parle de Jésus qui est la lumière du monde, c'est naturel. Mais il a dit qu'il était la lumière du monde quand Israël, en tous les cas Jérusalem, était baigné de lumière. sur tous les rebords de fenêtres, il y avait ces fameuses huit lumières qui brillaient partout en Israël. Et c'est là que Jésus a choisi de dire « Je suis la lumière du monde ». C'est très important, c'est important pour les Juifs, mais c'est important pour nous les chrétiens aussi, de réentendre ces choses. Qu'est-ce que c'est la Hanouka? Moi j'ai entendu, je suppose que vous avez dû entendre les mêmes choses que moi. Ah, moi j'étais catastrophé, vraiment catastrophé. Je ne vais pas le dire parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas intéressant. Mais les gens se posent des questions, pourquoi il y a tant de bougies, tant d'ampoules électriques, ce déferlement de partout, sur les squares, dans les rues. Est-ce que vous aimez les lumières? Est-ce que vous aimez ces lumières? Est-ce que c'est bien la lumière? Est-ce que vous aimez les rues illuminées? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien. Il faut pas que la tradition occulte la vérité. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas contre la tradition, à condition qu'elle n'occulte pas la vérité. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la tradition a pris le dessus, il y a longtemps, sur la vérité. Alors les gens ne s'en rendent pas compte, mais en vérité, ce déferlement de lumière, de bougies partout dans les rues, etc., c'est la perpétuation de cette fête juive qui s'appelle la Hanouka. Et on ne peut pas ne pas parler de cette fête, pourquoi? Parce que Jésus en parle, Dieu en parle, puisqu'il est dit, c'était le jour de la dédicace, que justement il a dit, je suis la lumière du monde. Alors, et bien sûr que quand vous écoutez, il y a plein de choses contradictoires, mais il faut que vous entendiez certaines choses. Comment Jésus-Christ est né? Il est né la nuit. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que son fils naisse la nuit? Oui ou non? Bon. Dieu aurait pu permettre que son fils naisse le jour? À midi, est-ce que Dieu aurait pu permettre que Jésus naisse en pleine journée, en plein midi? Bien sûr que oui. Mais Dieu a voulu que Jésus-Christ naisse dans la nuit qui représente les ténèbres dans lesquelles nous étions plongés. Dont la lumière s'est manifestée en pleine nuit. Vous avez entendu avec moi la prophétie d'Ésaïe. Pour ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il y a une lumière que nous pouvons produire nous-mêmes. Vous avez vu le local, nous sommes en vérité dans le noir. Hein? Et les hommes peuvent produire une certaine lumière. Est-ce que c'est bien? C'est extraordinaire, les lumières que les hommes peuvent produire. Mais il y a la lumière que Dieu envoie dans les cœurs. Et comment, vous avez vu comment Jean annonce la venue de Jésus? Il le fait venir directement du ciel. Il ne le fait pas passer par Bethléem. Pour que nous comprenions bien que Jésus-Christ est la lumière et qu'il est venu sur la terre pour nous éclairer. Et c'est important de comprendre ces choses. Peut-être vous n'avez jamais fait attention. Tiens, oui, Matthieu présente d'une façon, Jean présente d'une autre. C'est voulu par le Saint-Esprit pour que nous comprenions bien que nous avons besoin d'une lumière qui n'est pas produite par les hommes, mais qui vient directement de Dieu. La lumière doit venir dans le cœur des hommes. Alors, dans l'histoire juive, il y a quelque chose qui doit rappeler l'histoire de Noël. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre des Maccabées. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, qui n'est pas un livre inspiré, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, mais c'est un livre historique. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant Israël, en particulier dans la période entre le prophète Malachi. Vous savez, le prophète Malachi, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et puis après, de nouveau, intervient le nouveau prophète Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps s'est passé entre Malachi et Jean-Baptiste? Est-ce que quelqu'un peut me dire la quantité de jours, de mois, d'années ou de siècles où le monde a été dans le silence total vis-à-vis de la voix de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? 400 ans, 4 siècles où Dieu n'a pas parlé. Déjà quand il parlait, c'était bien que Dieu parle, non? Et là, à partir du prophète Malachi, les ténèbres étaient tellement épaisses, Dieu n'a pas trouvé d'homme par lequel il pouvait parler. Il a recommencé à parler au travers, on le sait, donc du prophète Jean-Baptiste. Et pendant ces 400 ans de silence, il y a eu des ténèbres vraiment en Israël. Si vous regardez l'histoire d'Israël à cette époque-là, c'est quelque chose de terrible. Alors, vous pouvez le taper, vous pouvez taper sur Internet, tac, tac, Antiochus Épiphane, et vous verrez ce dictateur qui oppressait Israël à cette époque-là. C'est important ce que je vais vous dire. Le pays donc était occupé par Antiochus Épiphane. J'ai regardé sur Internet, et cet homme est considéré par toutes les religions chrétiennes comme le type de l'antéchrist, tellement il a cherché à faire le mal en Israël. Il avait occupé Jérusalem et il avait détruit une partie du temple. Mais il a poussé l'abomination à faire quelque chose que jamais quelqu'un n'avait fait. Il a sacrifié un porc sur l'autel du temple, en offrande à une déesse païenne. Ça s'est passé en 169 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque-là que les Juifs se sont révoltés et ils ont décidé de libérer Israël de cet oppresseur. Ils ont pris les armes. Alors c'est sûr que là, il y a des choses qui se discutent. Mais les Juifs ont pris les armes et ils ont débarrassé ce fameux oppresseur Antiochus Épiphane de Jérusalem, d'Israël. Il est allé ailleurs régner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu de suite réparer le temple, remettre en place le culte. Alors ils ont décidé de rallumer bien sûr le chandelier, qui était éteint depuis belle lurette. Et que pour le chandelier, vous savez, le fameux chandelier dans le temple, il fallait de l'huile consacrée. On ne faisait pas les choses n'importe comment, il fallait de l'huile consacrée. Et ils ont cherché de l'huile, et ils ont trouvé dans une petite fiole un peu d'huile consacrée pour allumer le chandelier. Et cette huile, vu la quantité, ne devait durer qu'une nuit. Et il fallait qu'il reprépare de l'huile consacrée. Vous irez dans le Lévitique et vous verrez qu'on ne faisait pas n'importe quoi dans le temple. Il fallait faire une huile spéciale. Il fallait 8 jours pour préparer de l'huile consacrée. Et le peu d'huile qu'ils ont trouvé, qui ne devait durer qu'une nuit, a duré 8 jours, le temps qu'on reprépare de l'huile consacrée. Et c'est un souvenir de cette affaire que l'on fête la fête de la Hanouka, ou dans grec, la dédicace, c'est-à-dire la fameuse fête juive, la fête de la lumière. Et ce qui se passe, ça correspond aux dates en plus qui correspondent à notre 25 décembre, vous voyez, c'est quelque chose qui se conjugue beaucoup avec Noël, c'est la fête de la lumière. Alors le premier soir, on allait dans le temple, sur le fameux chandelier qui s'appelle le serviteur de Dieu. Vous voyez que c'était prophétique. J'allais pas moi chez ma voisine pour allumer la lampe. Il fallait que j'aille au temple. Il fallait que tout le monde, chacun, aille, la première lumière, aille au temple pour prendre sa lumière sur le serviteur de Dieu qui représente de nous le grand serviteur de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une expérience personnelle d'aller chercher la lumière. Et c'est pour ça qu'il y a un rapprochement entre la fête de la lumière et la fête de Noël. On peut faire ce rapprochement. Mais mes frères et sœurs, dans le premier jour, on allumait une lampe, une bougie. Et le deuxième jour, on allumait une deuxième bougie. Et on mettait ça sur le rebord de la fenêtre. Et le troisième jour, on allumait une troisième bougie, etc., jusqu'au huitième jour, où il y avait sur chaque rebord de fenêtre 8 bougies qui étaient allumées. Alors imaginez-vous, sur toutes les fenêtres en Israël, il y avait des bougies partout. Vous lisez, vous, c'était la fête de la dédicace, bon, c'est bon. Vous ne comprenez pas grand-chose. Et c'est là que Jésus s'est levé et il a dit « Je suis la lumière du monde ». Le Jean chapitre 9, par exemple, c'est quand il a guéri l'aveugle de Jérusalem. Vous savez qu'il n'avait pas d'yeux, qu'il n'avait pas d'orbite. Et si vous regardez les chapitres avant, les chapitres après, vous voyez que ça regorge de la présentation de Christ qui est véritablement la lumière du monde. Ça s'est passé, cette affaire de la dédicace, en 169 avant Jésus-Christ. Mais vous, cette prédication, tout le monde aurait pu la faire, puisque j'en ai piqué la moitié sur Internet. Ça, c'est clair. Tout le monde aurait pu la faire. Donc, ils ont cherché à ranimer cette huile. Mais mes frères et sœurs, nous allons arriver à ce qui nous concerne à nous, parce qu'on ne va pas parler de la Hanouka jusqu'à 11h30. Nous allons essayer de comprendre où nous, les chrétiens, nous en sommes. Alors, la fête de la Hanouka, c'est une fête que Jésus a vécue, en tous les cas une fois, c'est sûr, puisque c'est là qu'il s'est présenté comme étant la lumière du monde, parce qu'il voulait vraiment que l'on comprenne qu'il n'y a pas d'autre lumière que Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez, vous, que la seule lumière qui peut éclairer le monde, c'est Jésus-Christ? Il est la seule lumière. Vous savez, je disais ce matin à quelques frères et sœurs qu'il y a un pasteur des assemblées de Dieu. Écoutez bien. Peut-être que certains ne vous comprendraient pas tout, mais c'est vraiment grave. Sur la couverture du Time, cette semaine, il y a quelque chose d'écrit. C'est un des plus grands pasteurs des assemblées de Dieu aux États-Unis qui a dit ceci. Les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu, le même Père, Dieu. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, un petit peu, de ce qui est en train de se tramer. Ça s'appelle le syncrétisme. C'est les religions qui sont toutes en train de s'agglomérer. Croyez-moi, ce n'est pas bon signe. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous comprenez un petit peu qu'il n'y aura pas que l'Empire romain, l'Europe qui va se constituer. Il y a également une religion mondiale qui est en train de se mettre en place. Et si les chrétiens ne veillent pas, ils vont tous se faire piéger. Parce qu'avec ce qui se passe cette semaine aux États-Unis, croyez-moi que les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau vont applaudir et se faire des gorges chaudes de cette affaire extraordinaire. Quelle évolution dans la chrétienté. Nous avons tous le même Dieu. Croyez-moi, mes frères et sœurs, les ténèbres ne doivent pas régner dans l'Église. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière qui doit régner. Nous devons être la lumière. Et beaucoup de chrétiens, je suis profondément peiné, mais moi je peux vous dire que si on l'a lu, c'est pour ça que j'ai pris le premier texte, j'hésitais à le prendre. Je ne voulais pas l'utiliser, et puis je me suis dit, je pense que si, parce que des chrétiens sont retombés dans les ténèbres. Rappelez-vous quand Samson a abandonné sa consécration, qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a crevé les yeux. Cet homme qui aurait dû être, Samson ça veut dire petit soleil, vous voyez Samson, lui qui aurait dû être un instrument de lumière en Israël, eh bien il a fini aveugle. C'est un paradoxe. Comme quoi quand on ne veille pas, eh bien à la place d'être une source de bénédiction, on est une source de malédiction. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que cette histoire, il faut le dire, d'où ça vient, la Hanouka. Vous voyez, c'est quand même une belle fête juive, il faut quand même l'expliquer. Moi, j'ai entendu des juifs dire oui. Ignorant totalement le béaba, et on le voit. Si notre évangile est voilé, il est voilé par ceux qui périssent. Et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui vont chercher d'autres sources de lumière. Vous vous rappelez du temps des rois où ils adoraient le soleil, les anciens du peuple juif, ils adoraient le soleil. Ils étaient prosternés devant le soleil, c'est-à-dire qu'ils adoraient une autre source de lumière. Et quand on commence à tomber dans l'évangile social, laissez-moi vous dire qu'on est en train d'adorer le soleil, plus que d'adorer le créateur du soleil, notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous relirez le premier texte, vous le méditerez, et vous verrez combien beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont enténébrés. Il nous faut la véritable lumière. L'Église, elle a besoin d'être envahie de lumière. Jérusalem était envahie de lumière à la fête de la dédicace. Mais croyez-moi, on a besoin de voir Jésus se lever dans l'Église, de voir les chrétiens se lever et d'être cette source de lumière, d'autant plus que Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et si vous achetez le Time de cette semaine, mais vous allez frémir, parce que véritablement, et à chaque année à Noël, on nous l'a fait. Qui c'est qui a crucifié Jésus? Est-ce que ce sont les Romains? Est-ce que ce sont les Pharisiens ou les Juifs? Chaque année, il y a des sondages, en veux-tu, en voilà, des trucs à vous faire rire ou à vous faire pleurer. Ça dépend comment vous le prenez. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la lumière, c'est Jésus-Christ. Et qu'elle doit briller dans l'Église. Que le Seigneur Jésus doit briller, que sa parole doit vraiment briller. La lumière, elle vient d'en haut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes les lumières. Merci pour la tradition. À condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la tradition ne supplante pas la vérité. Vos enfants, enseignez-leur, dites-leur, voilà, oui, tu vois toutes ces bougies, ça rappelle la fête de la lumière, enseignez-leur. Ce que la Hanouka, c'est pas un péché, puisque la Bible en parle, puisque Dieu a voulu en parler dans le chapitre 10, vous l'avez lu avec moi, de l'évangile de Jean. Donc on peut en parler de cette fameuse fête de la lumière. Oui, il y a une lumière, oui, il y a les fêtes religieuses, mais il y a quelque chose de plus grand que les fêtes religieuses. Il y a quelque chose de plus grand que chaque lumière dans l'espoir et chaque étoile dans le ciel, c'est le maître de la lumière, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est votre lumière? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, oui, j'aime la tradition, mais j'aime surtout encore et encore plus le Seigneur Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est ma lumière. Les gens fêtent Noël, ça ne veut rien dire. Merci pour la tradition. Est-ce que vous allez fêter Noël? On a tenu avec les frères, on a tenu à inviter ceux qui sont seuls pour justement leur parler de Jésus. Il y a des gens qui sont seuls, au minime, à Colomiers, à Toulouse-Ouest, peut-être même ici. Il y a combien d'inscriptions pour le repas de Noël? Une quarantaine. Vous vous rendez compte? Bon, il y a des gens qui sont seuls. Et ils vont. Mais est-ce que c'est bien de rassembler des gens qui sont seuls? Moi, je trouve que c'est bien. La longue veille, c'est pareil. Le plaisir qu'on se retrouve ensemble, moi, je trouve que ça a de la valeur. De terminer une année dans la prière, de terminer une année dans la louange, d'en recommencer une autre dans la prière, en demandant à Dieu sa grâce sur nous. Vous ne trouvez pas que c'est bien d'être à la fin de l'année et d'être toujours fidèle? Vous ne trouvez pas que c'est bien d'être toujours fidèle à Dieu? Combien de gens ont décroché cette année? Combien de gens devraient être ici ou dans notre église et n'y sont pas? Parce que Jésus n'a pas été la lumière. Ils se sont bifurqués vers d'autres sources de lumière, comme si un chrétien pouvait accepter une autre forme de lumière. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais Monsieur Gault, s'il vous plaît, on le sait. J'espère qu'on le sait très bien. Et que notre lumière, notre éclairage spirituel, il vienne toujours de la parole de Dieu. Quand vous voyez le théâtre qui est devenu Noël aujourd'hui, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est du théâtre. On fait le Noël que l'on fait dans les églises, on fait ça, bien sûr. Alors, il y a des trucs super. Au niveau des émotions, au niveau sentimental, il y a des crèches, tout ça, c'est super, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui reste de Jésus-Christ dans ces trucs? On va faire, oh, vous n'avez pas vu cette crèche vivante? Oh, c'était merveilleux, il y avait même un âne. Ça, c'est sûr que des ânes, il y en a. Il y avait même un âne. Un vrai âne dans une église. Oui, ça, c'est clair. Mes frères et sœurs, mais Jésus, où il est? Vous savez, quand Jésus est venu, il a dit, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Ce verset, les véritables chrétiens, ça les fait souffrir. Pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. On l'a fait naître dans une étable. Je vous rappelle que c'est le Fils de Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, dépouillé de sa gloire, qui est venu sur la terre, il est né dans une mangeoire. Vous allez me dire, monsieur, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Le pauvre aubergiste, s'il avait su ça, je suis sûr qu'il aurait donné son lit. S'il avait su qu'il avait affaire ce jour-là au Créateur du ciel et de la terre, incarné dans le sein de la Vierge Marie, je pense qu'il aurait donné sa meilleure chambre. Mais aujourd'hui, si Jésus est vraiment la lumière du monde, au-delà de tout ce déversement de lumière qui peut être accepté comme étant de la tradition, qui peut être bien accepté. Moi, chez moi, il y a plein de lumière. Si vous venez, il y a plein de lumière partout. Mais je ne pense pas qu'il y en a une seule. Et pourtant, en ce moment, si vous regardez le soleil, la nuit, quand il se couche, en face, vous avez vu la grosse, en ce moment-là, c'est Saturne, je crois. Hein? Non? Vénus? Non. C'est sûr? C'est Vénus? Enfin, c'est une planète. Vous avez vu c'est comment elle illumine dès que le jour se couche. Vous avez peut-être raison, vous devriez avoir raison. Enfin, c'est une des planètes de notre système. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Mais qui est votre lumière? Est-ce que c'est le monde qui vous éclaire? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes obsédé par les prochaines législatives? Il y a des chrétiens, vous leur parlez de Jésus, bon, vous parlez des prochaines législatives, vous entendez des chrétiens qui veulent voter pour le Front National pour que les choses changent? On l'entend ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, quand j'entends ça, je me dis qu'on est loin de la lumière. Les choses vont s'aggraver de toute façon. Quand on vote des lois qui sont contraires à la morale, laissez-moi vous dire que vous pouvez mettre l'extrême droite ou l'extrême gauche, le centre, tout ce que vous voudrez, les choses s'enténèbreront. Vous le savez, c'est écrit, les choses iront en s'empirant. Mais pour les chrétiens, les véritables chrétiens, la lumière, elle peut briller dans vos cœurs. Est-ce que la lumière brille dans vos cœurs? Est-ce que ce matin, vous allez partir dans un quart d'heure, 20 minutes, en disant, mais moi, j'ai mon Seigneur dans ma vie. J'ai mon Jésus. Le Seigneur, il brille dans ma vie. Je n'ai pas peur du lendemain, parce que sa parole m'éclaire. Est-ce que vous pouvez le dire, ça? Mais moi, j'ai pas peur. On le chante des fois qu'on n'a pas peur du lendemain. Les chrétiens, ils ont peur du lendemain, mais parce que la lumière ne brille pas. Quand est-ce qu'on a peur? Mais quand on est dans les ténèbres. Quand on est dans la lumière. Est-ce que vous avez un enfant, vous avez vu des fois, oh, je veux dormir avec la lumière. Et dès qu'on met la lumière, tac, il s'endort. Est-ce que c'est normal? Ben oui, parce que dès qu'il y a Jésus-Christ, il y a de l'espérance. On a chanté tout à l'heure, il est sorti du tombeau, enfin, comment c'est? Il vit, je sais qu'il vit, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est vivant? Est-ce que vous pensez que tous les espoirs sont permis lorsque l'on croit que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il règne et qu'il va revenir nous chercher et qu'il tienne nos vies dans sa main? Est-ce que tous les espoirs sont permis? Mais bien sûr, j'espère que votre cœur est rempli d'espérance. Alors tant mieux pour le sauterne et la dinde farcie. Tant mieux, si vous pouvez. Non mais c'est pas des bénédictions? Moi je bénis Dieu. Vous savez, on a avec Isabelle, je vous le dis, vous le savez pas, c'est pas grave. Avec Isabelle, on a vraiment été pauvres. Mais vraiment pauvres, quand on est rentré dans le ministère. On n'honorait pas les pasteurs comme on le fait aujourd'hui. Et encore, je tiens à remercier le conseil d'administration, vraiment, pour la façon dont vous honorez. Mais je peux vous dire que ça fait 25 ans qu'on est parti de cette église-là. Et chaque fois que j'ouvre le frigo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça m'est arrivé de pleurer.
de reconnaissance. Et je crois qu'il faut être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. C'est une grâce d'avoir à manger. C'est une grâce d'avoir de se payer une bonne bouteille de vin. Oui ou non? Tout ça, c'est bien. Béni soit Dieu. La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Mais enfin, qu'on boive du bon vin ou qu'on boive de la piquette, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que notre cœur soit inondé de lumière. C'est que notre cœur soit conscient qu'il y a une lumière et que cette lumière, elle doit briller, que l'Église doit être la véritable lumière. Ce qui se passe là aux États-Unis, laissez-moi vous dire que ça va engendrer des drames parce que le Saint-Esprit ne va pas du tout apprécier ce qui est en train de se passer. Même s'il savait que ça va arriver. Mais la lumière, elle est là, elle a chassé les angoisses. Vous l'avez vu? Vous avez vu la prophétie qu'on a lue? Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Vous avez vu? Et on lit, vous lisez plus ou moins le pays de Zabulon, le pays de Neftali. Bon, ça, vous savez que c'est chez les Juifs. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le territoire des gentils, c'est nous. Ça veut dire que quand Dieu a prophétisé, il n'a pas pensé qu'aux Juifs. Il a pensé à nous, tous les étrangers des Juifs. Puisque pour les Juifs, nous sommes tous des étrangers. Eh bien, Dieu a pensé à nous. Ça ne vous réjouit pas que Dieu ait pensé à nous? Ça ne vous réjouit pas que Dieu ait pensé au Burundi, que Dieu ait pensé à la Côte d'Ivoire? Enfin, je ne sais pas si c'est tous les pays qu'on représente, mais on va quand même citer la France. Hein. Est-ce que vous êtes heureux que Dieu ait pensé au territoire des gentils? Dieu a pensé à tout le monde. Et les ténèbres ne doivent pas régner dans une église. La lumière doit régner. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question. Bien sûr. Moi, il ne serait pas né dans les tables. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore des coins dans notre cœur qui ont besoin d'être éclairés? C'est ça la lumière. Seigneur, éclaire mes ténèbres. Illumine les yeux de mon cœur. Est-ce qu'il n'y a pas des pièces dans ma maison, dans la maison de mon cœur? Quand je vois combien certains chrétiens sont en train d'être mais aveuglés, mais graves. Quand je vois l'intérêt que certains ont pour le salut des âmes, n'y a-t-il pas besoin d'être tout à nouveau éclairé? Le travail dans l'évangélisation, est-ce que c'est important le travail d'évangélisation? Quand je pense que beaucoup de chrétiens ne sont pas du tout conscients que l'Église ne fonctionne pas comme un fonctionnement humain, terrestre. C'est spirituel, c'est un combat spirituel. Gagner des âmes, ça ne se fait pas avec de la publicité ou des super orateurs ou je sais pas, ou des trucs de l'organisation. Voilà, vous le savez, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par l'esprit. Et si nous voulons véritablement que la lumière de Christ éclaire tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, car croyez-moi, je trouve qu'il y en a beaucoup de gens assis dans les ténèbres. Et il y a même des chrétiens, soyons honnêtes, il y a des chrétiens qui sont assis dans les ténèbres. Et il faut qu'il se passe quelque chose. Alors Seigneur, éclaire-moi, montre-moi tout à nouveau, quelle est ma place? Est-ce que vous savez quelle est votre place dans l'Église? Je vous pose la question de façon très sérieuse. Quand Dieu fait la lumière, il nous montre quelle doit être notre place. Moi, il m'a fallu attraper un AVC pour comprendre certaines choses, pour que Dieu me montre vraiment quel était mon ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et je vous pose la question, mes frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je sais ce que Dieu me demande. Je sais quelle est ma place dans l'Église. Je sais ce que je dois faire. Voilà, Dieu m'a sauvé. Il est ma lumière. Et il veut que je sois la lumière. Peut-être que vous aurez besoin de prendre des évangiles. Prenez-en. Faites-vous cet honneur d'offrir la plus belle des lumières pendant ces vacances. Vous allez inviter de la famille, des amis, des voisins à partager un morceau de foie gras peut-être. Mais tant mieux. Mais il y a le foie gras, c'est bien, mais il y a mieux. Donnez un évangile. Ça, c'est la lumière. Voilà ce que Dieu veut, c'est que nous soyons la lumière. Je termine avec cette pensée, mes frères et sœurs. Je termine avec cette pensée. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Ça nous fait mal au cœur, cette affaire. Parce que quand même, bien sûr que Dieu l'a permis ainsi, que Dieu naisse dans la nuit, etc., etc., etc. Mais quand même, vous avouerez que, franchement, c'est triste. Mais quelle est la lumière aujourd'hui dans l'église de Sainte-Agne? Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, je suis la lumière, moi aussi. Puisque Jésus a dit, vous êtes la lumière. Je veux, par mon témoignage, c'est peut-être pas la peine de parler, mais par mon témoignage, auprès des miens, auprès de mes voisins, je veux montrer que je suis un véritable chrétien. Est-ce que c'est important pour vous de donner ce témoignage? Vous êtes mes témoins. Alors s'il y a une pièce qui est encore enténébrée, eh bien, Seigneur, éclaire-moi. Vous croyez que Dieu va vous aider? Si vous vous mettez à genoux, enfin à genoux, si vous vous humiliez devant Dieu, Seigneur, tu vois, s'il y a des trucs encore, des parties cachées dans mon cœur, éclaire-moi. Vous croyez que Dieu va vous éclairer? On a chanté On a chanté, remettez la dernière strophe du cantique qu'on a chanté à l'introduction de la prédication. Non, pas celui-là, ni celui-là. Le dernier. Voilà, mettez la fin, s'il vous plaît. La fin. Pop, stop. Remontez. Qu'y a-t-il sur ton cœur? Dis-moi ce que tu attends. Dis-moi ce que tu attends. Et j'agirai selon ce que tu veux. C'est une belle parole. Réellement. Vous l'avez chanté, vous ne le connaissiez peut-être pas, ce cantique. Vous l'avez chanté, vous ne l'avez pas chanté, ce n'est pas grave. Mais ce que vous avez réalisé, ce qu'on a chanté, dis-moi ce que tu attends. Eh bien, Dieu attend que vous et moi, nous soyons véritablement une source de lumière. Seigneur, dans ma maison, dans la cave, tu n'y es pas. Parce qu'il y a peut-être des recoins cachés. Dans ma salle à manger, tu n'y es pas. Dans ma cuisine, tu n'y es plus. On ne rend même plus grâce à table. Parce que quand même, moi, je trouve que c'est bien d'avoir à manger, d'avoir à boire. De rendre grâce. C'est écrit, rendez grâce à Dieu. Est-ce que c'est écrit? De ne pas oublier Dieu lorsque l'on mangera. Est-ce que c'est écrit? C'est une grâce. Et tout à l'heure, quand vous allez le faire, bénissez le Seigneur. Peut-être que vous avez le chauffage comme il faut dans votre maison. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes bien chauffé. Allez en Centrafrique. Moi, j'ai entendu cette semaine un reportage sur les chrétiens qui sont en Syrie, qui ont dû fuir la Syrie, dans des caves. Ce que certains chrétiens sont en train de vivre. Et nous, on est là, dans une église, bien chauffée, bien climatisée. Franchement, on a des habits neufs pour tous, pour ainsi dire. On a tout ce qu'il faut. Et si nous nous plaignons, s'il y a quelqu'un qui était tout le temps en train de bouder, de râler, de se plaindre, de gémir, je vous le dis, la lumière a disparu, ou presque disparu. Alors que Dieu nous donne cette grâce d'être une source de bénédiction. Dieu vous a donné un foyer, vous avez votre conjoint, vous avez vos enfants. Est-ce que c'est une grâce d'avoir vos enfants? Est-ce que vous avez vos enfants avec vous? Vous avez le téléphone pour les joindre, pour parler? Ce n'est pas des bénédictions tout ça? Si on passait notre temps à rendre grâce, on n'aurait pas beaucoup de temps, croyez-moi, à se plaindre. Alors mes frères et sœurs, que Jésus, dans l'église de Saint-Anne, puisqu'on est quand même concerné par notre assemblée, que Jésus brille dans cette église. Montre-moi ma place, Seigneur, dans le combat spirituel. Il y a des chrétiens qui n'ont pas compris qu'il y avait un combat spirituel. C'est pour ça qu'il y a pas, que les chrétiens ne prient pas. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un combat spirituel et qu'on gagnera les âmes dans la prière. Ma maison est une maison de prière. Il y a des chrétiens qui viennent plus prier pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas compris qu'on gagnera des âmes par le combat spirituel. Un beau combat spirituel qui est déjà gagné à l'avance par l'œuvre de Jésus-Christ au calvaire. Alors mes frères et sœurs, si un peu de ténèbres, demandons au Seigneur qu'il les chasse vraiment. Qu'on puisse dire, mais Seigneur, j'agirai selon ce que tu veux. Vous le croyez ça? Est-ce que quelqu'un peut le dire dans son cœur? Oui, je ferai ce que tu veux, Seigneur. Je le ferai vraiment. On va se recueillir quelques instants. On va se recueillir vraiment. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas la détruire. Vous savez, on a essayé de détruire Jésus. Enfin, on a essayé, on l'a presque détruit. Mais vous savez ce qui s'est passé le troisième jour. Jésus avait dit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. Et c'est ce qui s'est passé. On a essayé de détruire Jésus, on a presque réussi à le détruire, mais la lumière de Christ ne peut pas être détruite. Mais dans nos cœurs, elle peut être éteinte. Alors mes frères et sœurs, oui, nous célébrons Noël. Moi, je me réjouis que mardi, on puisse accueillir les gens qui sont seuls. Peut-être vous serez dans votre maison, vous aurez quelques amis, peut-être juste vos enfants. Vous allez peut-être tout à l'heure bien manger, bien boire. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui reste de cette lumière? Ce matin, dans votre cœur, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Quand vous voyez qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'on peut vivre dans la fornication, écoutez bien ce que je dis. Il y a des chrétiens qui pensent qu'on peut vivre dans la fornication tout en étant chrétien. Eh bien, les ténèbres sont tout à nouveau revenues. Moi, je crois que celui qui a dit « Je suis la lumière » est encore capable de faire en sorte que les ténèbres ne règnent plus. Prions, mes frères et sœurs, ensemble, prions de tout notre cœur que cette église soit un phare dans cette ville, vraiment un phare. Non seulement pendant ces repas où nous accueillerons des gens seuls, mais chez nous, dans nos maisons, dans nos familles, à l'extérieur, où que nous soyons, réjouissons le cœur du Seigneur. en étant la lumière. Et s'il y a plein de lumière dans les squares et dans les... C'est bien, mais qu'il y en ait surtout dans le cœur des chrétiens. Merci Seigneur. Notre Père, oui, nous te bénissons pour cette fête de Noël. Parce que nous savons que tu es venu dans nos ténèbres, en pleine nuit, dans cette étable. Fallait-il que tu nous aimes ? Fallait-il que tu nous aimes ? Et non seulement tu nous as aimés, mais nous savons que tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu vois nos cœurs, Seigneur. Combien nous voudrions être ces lumières qui brilleront au sein des ténèbres. Et si ces ténèbres autour de nous s'épaississent, qu'importe, puisque nous savons de toute façon qu'elles ne feront que s'épaissir. Mais nous voulons être, oui, comme ces planètes qui le soir brillent, Seigneur, dans le firmament. Oui, Seigneur, dans ces ténèbres qui s'épaississent, accorde à tous tes enfants, à chacun d'entre nous, d'être ces lumières qui vont éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Délivre-nous, Seigneur, de cet aveuglement, de cette cécité. Tu vois, ceux qui ont peur de témoigner, ceux qui ont même peur de distribuer des évangiles. Tu es un Dieu de délivrance. Alors que cette lumière chasse les ténèbres et amène la bénédiction sur ton œuvre. Nous te le demandons, Seigneur, tous ensemble, dans le beau nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.